Et l'invité dont n'arrête pas l'écho vient de s'asseoir dans le studio 521. Bonjour Jean-Claude Mailly.
Bonjour.
Numéro 1, secrétaire général de Force Ouvrière qui revendique 500 000 d'adhérents, c'est ça?
Oui, 500 000, oui.
Jean-Claude Mailly, de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, vous avez dit qu'elle avait un profil plutôt rassurant. Que dites-vous de son directeur de cabinet? On a appris hier soir que ça serait un ancien du MEDEF.
Oui, mais il faudra lui poser la question pourquoi il avait quitté le MEDEF. Ce serait peut-être intéressant d'avoir sa réponse. Non, c'est quelqu'un que je connais, qui aime le dialogue, qui aime la négociation collective. Donc non, c'est pas mal.
Enfin,
franchement, au-delà des noms, j'aime autant moi que celui qui est directeur ou celle qui est directeur du cabinet du ministre du Travail ne vienne pas de Bercy. Voilà.
Et que diriez-vous de Bercy, alors du casting à Bercy? Ça va vous concerner quand même, la fonction publique?
Oui, je suis curieux de voir à la fois Bruno Le Maire ce que ça va donner, parce que je me souviens de sa campagne pendant la primaire de droite, c'était hard quand même sur toute une série de points. Bon, maintenant à lui de voir. Et sur la fonction publique, oui, il y a une inquiétude de l'ensemble des fonctionnaires qu'il n'y ait pas de ministère en charge de la fonction publique. Bon, c'est le ministère de l'Action et des Dépenses Publiques. Est-ce que ça veut dire qu'on va essentiellement...
Des comptes, ouais.
Oui, des comptes publics. Est-ce qu'on va examiner le situation des fonctionnaires, quels qu'ils soient, à partir d'une logique uniquement de dépenses et de comptabilité. Ce qui serait un problème, il y a un vrai... Sur la fonction publique, ça fait un moment qu'on explique qu'il faut, avant toute chose, faire une évaluation. Il faut et préciser le rôle et les missions du service public. C'est ça qu'il faudrait faire avant toute chose. Avant de dire on va supprimer ceci, supprimer cela, parce que c'est du rabot, il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup de secteurs. Donc il faudrait avant tout, la première priorité, ce serait de faire ça. Il y a un organisme comme le Commissariat à la Stratégie et à la Prospective qui pourrait faire ça assez rapidement.
Avant-hier, le Premier ministre a appelé tous les partenaires sociaux. Est-ce qu'à vous aussi, Jean-Claude Mailly, Édouard Philippe a dit l'importance qu'il accorde au dialogue social?
Oui. C'était une prise de contact. Hein. Il a à la fois expliqué qu'il tenait beaucoup au dialogue social et qu'il était, en tant que Premier ministre, il avait un esprit d'ouverture. Eh ben, j'ai dit, ça tombe bien, moi aussi. Mais maintenant, on verra sur la suite des événements. Après, on n'est pas rentré dans les dossiers encore.
Est-ce que vous avez des dates de rendez-vous avec l'exécutif?
Pas encore.
Devez les rencontrer la semaine prochaine ou...
Écoutez, je ne sais pas, tant qu'ils ne nous donnent pas de date. Je ne sais même pas comment ça va être organisé. J'en sais rien, que si j'écoute ce que dit le président de la République, qui aurait l'intention de revenir à... Le président de la République s'occupe du long terme, des grandes orientations, et après le reste, c'est le gouvernement. Peut-être qu'on va avoir le président de la République tout seul d'abord, et puis après le gouvernement. Mais franchement, je n'en sais rien. Maintenant, ça m'étonnerait franchement aussi qu'Emmanuel Macron ne jette pas un œil sur l'économique et le social. Je serais fort surpris.
Vous le connaissez, Emmanuel Macron. Vous en parlez dans votre ouvrage
oui. «
Les apprentis sorciers ». Les adjectifs, c'est
ben, si ma mémoire est bonne, c'est un peu techno, espiègle et charmeur.
Libéral?
Oui, il est libéral de conception économique, oui, c'est un libéral, oui, il ne s'en cache pas d'ailleurs.
Le premier dossier, ce sera les ordonnances pour réformer le Code du travail. Le gouvernement l'a répété toute la semaine, il veut aller vite, il veut être opérationnel à la rentrée. Est-ce que ce calendrier va au secrétaire général de Force
Ouvrière? Disait ma grand-mère, vite et bien, c'est l'affaire de deux. Hein, donc je suis là-dessus très prudent. C'est pas l'outil ordonnance en tant que tel, vous savez... je crois que depuis le début des années 80, il y a dû y avoir 500 ordonnances d'une manière générale. Si on est d'accord avec le contenu, bon, on peut faire une ordonnance pour essayer d'aller plus vite. C'est un outil constitutionnel, c'est pas forcément le meilleur outil démocratique. D'ailleurs, c'est surtout le Parlement qui est squeezé d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'il n'y a pas de vrai débat de fond. C'est une loi d'habilitation, une loi de ratification. Bon. Maintenant, si... donc ça suppose qu'on soit d'accord. Ça suppose, pour être d'accord, qu'il y ait une véritable concertation. C'est pas une ou deux réunions.
Consultation, a dit le porte-parole.
Ah oui, déjà, c'est moins bien.
C'est ce qu'on a entendu, oui.
Ouais, consultation, c'est moins bien. Parce que consultation, ça peut être, voilà, on veut faire ça, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil, on continue. Donc là, à un moment donné, il y aura problème si c'est ça. Mais si c'est une vraie concertation sur les différents thèmes et que le gouvernement tient compte de ce que l'on dit, tient compte de ce que disent les organisations syndicales, modifie. Enfin, quand je dis modifie, franchement, moi, je ne sais pas où ils veulent aller. On va peut-être y venir, mais je ne sais pas sur les thèmes précis comment ils vont gérer les affaires. Donc s'il y a une vraie concertation qu'on est d'accord, tant mieux. Si on n'est pas d'accord, il y aura un problème et on verra au moment opportun.
Jean-Claude Mailly, en effet, on n'a pas le détail de ces ordonnances.
Non.
On sait que ça va être un approfondissement de la loi El Khomri.
J'en suis même pas sûr.
Ah bah alors ça serait quand même un scoop, parce qu'il me semble que ça a été quand même bien dit. Au moins...
C'est... Oui. C'est possible que ce soit ça. Attendez, je ne dis pas que ce ne sera pas ça, mais quand vous regardez ce qui a été dit pendant la campagne électorale et récemment, qu'est-ce qui a été dit? Bon, il faut aller plus au niveau de l'entreprise, mais dans le même temps, on nous dit, mais il faut préserver la branche. On nous dit, pour les salaires, on se discute déjà dans l'entreprise. Et puis, il faut respecter les minima conventionnels de branche. Alors, je ne sais pas où le curseur va être mis, je n'en sais rien aujourd'hui. Hein, donc, nous, on va réaffirmer nos positions. Je n'ai pas changé de position depuis l'année dernière sur l'articulation des niveaux de négociation collective. Nous, on tient à ce que tous les niveaux persistent. Il y a l'interprofessionnel, certes, mais il y a aussi la branche qui est un élément très important dans notre pays. Juste un chiffre, hein, 95% des salariés français sont couverts par une convention collective, parce que nous avons des conventions collectives nationales. Je discutais il n'y a pas longtemps, parce que je siège au comité directeur de la Confédération européenne, avec mon homologue allemand. En Allemagne, c'est 49% des salariés couverts par une convention collective. Donc, il faut qu'on conserve ça. Pour conserver ça, il faut conserver la branche. Après, il appartient dans la branche, mais c'est la liberté de négociation, patronat et aux syndicats, de dire, voilà, ça, ce sont les points normatifs sur lequel on vous demande de respecter. Ça, on vous renvoie à la négociation dans l'entreprise. Là-dessus, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, déroger, en plus, en mieux ou en moins bien. Et puis, on peut très bien aussi, au niveau d'une branche, quelle qu'elle soit, dire, voilà, pour les moins de 10, les TPE, voilà, on vous fait un accord type, puisque vous n'arriverez pas à négocier. Tout ça, on est prêt à discuter. Mais si c'est pour nous dire, voilà, ben, sur la classification, les salaires, c'est plus la branche, c'est l'entreprise, là, il y aura problème, c'est clair.
Donc l'approfondissement, on vous comprend bien, l'approfondissement pour dire, par exemple, en effet, sur les heures sup, les salaires, dire que l'accord d'entreprise prévaut sur l'accord de branche, ça c'est la ligne jaune?
Ah oui, c'est toujours été la ligne jaune, parce que ça remet, à un moment donné, ça remet obligatoirement en cause la convention collective nationale. Enfin, il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les pays où ça s'est pratiqué. C'est le Portugal, l'Espagne, la Finlande, la Grèce bien entendu, vous avez eu un effondrement de la négociation collective, y compris dans l'entreprise. Donc, c'est pas vraiment pas la bonne solution.
Mais pourtant, au niveau de l'entreprise, on pourrait dire que c'est pas mal pour les syndicats. Ils reprennent du pouvoir à ce moment-là. Ils reprennent de la force dans la négociation.
Mais il y a des négociations entreprises. Il y a 36 000 accords par an dans les entreprises. On n'est pas contre, bien entendu, la négociation d'entreprise. Mais il faut un minimum de règles communes élaborées au niveau des branches. C'est une question de régulation sociale et économique. C'est pas simplement social, c'est aussi économique.
Jean-Claude Mailly, on entend qu'une deuxième ordonnance pourrait remettre sur la table cette idée de plafonner le montant de l'indemnité accordée à quelqu'un qui se serait fait licencier sans cause réelle et sérieuse. Ça, c'est
là, ça paraît plus clair en tous les cas. Bon, mais ça, je vous rappelle que l'ensemble des syndicats sont contre cette mesure. Pourquoi nous sommes contre cette mesure? Parce qu'on se situe sur le cadre des licenciements abusifs, sans cause réelle et sérieuse. Nous considérons que dans ce cas-là, il appartient in fine au juge de fixer le préjudice subi par le salarié. En plus, qu'est-ce qui risque de se passer? Alors après, on peut dire que ça dépend du niveau du plafond, hein, bon, bien entendu. Mais après, les entreprises risquent d'avoir toute une série de saisines des prud'hommes sur d'autres choses. Sur là où on ne peut pas plafonner. Et là où on ne peut pas plafonner, c'est quoi? C'est les cas de discrimination et les cas de harcèlement. Or là, ce sera beaucoup plus difficile. Ça, c'est les cas les plus difficiles à régler. Par contre, nous on l'a expliqué depuis longtemps, on serait favorable, par exemple, pour un peu désengorger les prud'hommes à ce qu'on rende plus facile les procédures de conciliation. Ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut obliger la présence de l'employeur avec son conseil, du salarié avec son conseil. On est à 10% à peu près de taux de conciliation. On pourrait monter à 30%.
Oui, mais ça, c'est pas ce que demandent visiblement les chefs d'entreprise.
Oui, mais ils ont tort, parce que qu'est-ce qu'ils font? Enfin, 80% des saisines prud'homales, ce sont PME-TPE. Les grosses boîtes, elles gèrent ça différemment avec les délégués ou autres. Donc, qu'est-ce qu'ils font souvent, les employeurs? Ce que je peux comprendre, ils connaissent pas le code du travail, etc. Ils font appel à un conseil juridique, à un avocat. Et c'est l'avocat qui se pointe tout seul, représentant l'employeur à la conciliation. Et parfois, les avocats, pas tous, hein, mais n'ont pas intérêt à ce que la procédure s'arrête rapidement.
Jean-Claude Mailly, est-il vrai, c'est ma dernière question, oui, vous avez demandé à vos cadres de prendre des vacances qui pourraient être remboursées parce que
Non, c'est pas ça. J'aurais dit ne prenez pas d'engagement qui ne soit pas remboursable.
Voilà. Donc vous êtes sur le pied de guerre pour l'été.
Ah oui, tout à fait. Le bureau confédéral de FO sera présent tout l'été parce que j'ai cru comprendre que notamment au mois de juillet, ça allait consulter ou encore mieux concerter.
Pourquoi? Quelle est la philosophie de fond derrière? Renvoyer les syndicats? Les syndicats font trop de politique, c'est ça? Vous l'avez entendu?
Oui, mais il y a eu des phrases comme ça d'Emmanuel Macron pendant la campagne qui m'ont un peu surpris. À un moment donné, il a expliqué que au niveau national, les confédérations font de la politique. Non, on fait pas de la politique. C'est normal qu'une confédération, chacun est dans son rôle. Mais on s'exprime sur le budget, sur les grandes questions, l'assurance chômage ou autre. Puis à un moment, il a dit ça m'avait un peu plus sidéré. Il y a plus d'intelligence au niveau d'une entreprise qu'au niveau confédéral. Alors, je suis pas vexé, hein, c'est pas une question d'être peut-être vexé, mais je trouve ça un peu curieux. Moi, je ne viendrais pas à l'idée de dire qu'il y a plus d'intelligence au niveau d'un conseiller municipal que d'un président de la République.
Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière, merci d'avoir été
merci
sur France Inter.
Vous.